Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, l'actualité de la pop culture. C'est très tôt le matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible sur l'application de Radio France par exemple, ou encore en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, c'est David Prudhomme qui est notre invité, d'une part pour son beau livre sur les sumos, Sumographie, édité par Soleil dans la collection Noctambule, d'autre part pour L'Oisivré, publié par l'association Deux Bons Livres, Deux Bonnes Raisons pour recevoir l'auteur bordelais qu'on commence enfin à considérer à sa juste valeur.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Un sumo, deux sumo, trois sumo, 300 dessins de sumo qui vont du dessin le plus réaliste à l'aquarelle abstraite d'une beauté stupéfiante. Bonjour David Prudhomme.
Oui, mais bonjour.
Alors c'est quoi cette passion pour les sumo?
Oh, elle est née d'un pourquoi pas. Hein, elle est née vraiment du fruit du hasard.
Et puis d'un voyage au Japon, donc je suppose.
Oui, ouais. Oui, oui. Une proposition d'aller au Japon. L'histoire remonte à 2012. Hein. Et la ville de Bordeaux où j'habite est jumelée avec la ville de Fukuoka, qui se situe dans le Kyushu, la partie sud de l'archipel du Japon. Et donc, on m'a proposé de faire partie du voyage et des festivités du jumelage sur place. Le principe était que j'emmène quelques dessins de Bordeaux pour les montrer là-bas et en ramener quelques-uns du Japon à montrer à Bordeaux. La période coïncidait avec le tournoi qui s'appelle le Kyushu Basho, qui conclut la saison des tournois de sumo, et qui se déroulait pendant 15 jours, donc à Fukuoka. Donc j'ai fait quelques croquis sur place pour voir, comme ça, pourquoi pas. Hein. Et puis on m'a proposé d'aller voir un entraînement, donc j'y suis allé. Et pourquoi pas, j'ai passé 3 à 4 heures à dessiner intensément tous les sumotori.
Et quand on reçoit ce beau livre, on a un peu la réponse à la question que j'ai fait semblant de vous poser. C'est vrai que c'est un beau sujet pour un dessinateur, hein, que d'essayer de dessiner ces lutteurs au corps volumineux qui perpétuent cet art martial ancestral.
Ça m'est pas apparu immédiatement, mais pendant l'entraînement, oui, là j'ai reçu un choc, on peut dire. J'ai fait donc des dessins sans discontinuer pendant 3 heures, en essayant de trouver une technique appropriée. Donc là, j'ai utilisé un crayon à la cire qui me permettait de tracer en même temps la couleur, la ligne, et puis d'allier un peu cette tonalité de terre qu'on trouve sur le cercle de combat. Donc avec cet outil-là, j'ai pu aller assez vite et saisir pas mal d'attitudes. Et là, les masses, les corps ont commencé à danser au bout de mes doigts, devant mes yeux. Et là, ça a commencé à être vraiment, à devenir un sujet plastique en fait. Et c'est ce qui s'est poursuivi une fois rentré, ex abrupto, ex vivo, à la maison. Parce que la plupart des dessins ont été faits à Bordeaux après. J'ai ramené que 60 dessins du Japon.
Et ça, c'est de mémoire que vous avez fait ces dessins de ces corps massifs en mouvement, cherchant l'équilibre, ou c'est parce que vous avez pris des photos ou quelques esquisses?
Alors non, c'est essentiellement... j'ai pris des photos, bien sûr, parce que j'ai traîné en coulisses, dans les coulisses du tournoi, j'étais à côté des lutteurs. Mais l'essentiel des dessins consiste à ramener les sensations que j'ai ressenties pendant que j'étais sur place. C'est-à-dire ces sensations de choc, les sensations de lutte, de compression, de mélange des corps, de lutte contre la pesanteur. Et toutes ces notions-là, j'ai essayé de les décliner à travers des techniques, à travers des thématiques un petit peu de dessins différentes. Quoi.
Quand vous dites thématique... Pour vous, David Prudhomme, ça représente quoi un sumo? Qu'est-ce que ça représente? C'est plutôt un spectacle? C'est plutôt le catch? C'est plutôt la beauté de ces corps volumineux qui, a priori, pourraient nous terrifier? C'est de trouver la beauté là où elle doit pas se nicher? C'est quoi le...
Mais c'est tout ça, ouais. Tout fic. C'est-à-dire que il y a de la beauté dans l'apparat. Elle est immédiate parce que les lutteurs, les rikishis revêtent des tabliers de soie de cérémonie pendant le
tournoi. Vous avez employé un mot que j'ai pas compris.
Rikishi, ça désigne le nom du lutteur en fait. Enfin, non, le lutteur de sumo. On dit pas un sumo. En fait, on dit soit un rikishi, soit un sumotori. On peut accepter cette appellation.
Oh bah très bien, on est sur France Culture, on apprend des choses. Donc, merci David.
Nous sommes face à des rikishis qui sont vêtus de tabliers, mais qui ont les fesses à l'air quand même. Donc en permanence, on a ce contraste, on a certains ont pu qualifier ces hommes-là de gros bonhommes vêtus de string. Bon, je pense que c'est plus une raison politique qui fait qu'ils ont été nommés ainsi. Mais en réalité, quand on les regarde travailler, quand on les voit combattre, quand on les voit se comporter, on peut décemment pas s'en réduire à ça. Il y a tellement d'abnégation, de douleur, de travail, de force, de concentration, de respect. Et puis, il y a une puissance dégagée. Il y a aussi, justement, une capacité à dépasser les idées reçues et les apparences, finalement, parce que c'est quand même une présentation comme ça, devant un public, dans presque le plus simple appareil, donc et puis dans des positions qui vont pas forcément être à leur avantage, mais bon, il y a un mélange permanent de soins, d'attention, de combats, de choses un peu grotesques, mais aussi de choses extrêmement poignantes par les visages, notamment.
Que vous rendez très bien d'ailleurs dans ce gros et beau livre Sumographie, David Prudhomme. Les visages, les corps aussi, parce que jamais on a senti l'équilibre qu'avec ces corps volumineux que vous dessinez.
Alors, c'est ce que j'aime assez, c'est travailler les contraires et les contrastes. Donc, ce qui m'intéressait là, avec des personnes aussi corpulentes, fortes, puissante, c'était de travailler justement sur la légèreté parce que malgré tout, toute leur volonté va dans le fait de ne pas tomber. Parce que si on tombe sur le ring, on perd le match, le combat. Donc, tout leur travail, leurs années d'efforts sont concentrés vers ce fait de ne pas succomber à la pesanteur et de ne pas tomber. Donc, il y a un appel vers le haut, malgré tout, malgré le poids, ce qui est fascinant, c'est que c'est justement ce surpoids qui entre en contradiction avec toutes les autres qualités nécessaires pour gagner un combat. Et le surpoids permet de ne pas être déporté, de pas être éjecté du cercle par un adversaire qui pèserait le double de votre poids. Mais c'est possible, il n'y a pas de catégorie. Un homme de 90 kilos peut lutter contre un lutteur de 160 kilos ou 230 kilos.
Et en même temps, il faut être agile.
Il faut être agile, il faut être extrêmement tonique, puissant, enfin vraiment très fort. Et puis aussi malin et souple, parce que on peut perdre le combat sur une feinte immédiatement. Dans la première seconde, hop, une feinte de corps et vous tombez, c'est fini.
Alors, pourquoi ils sont considérés comme des dieux? Parce que ce sont des catcheurs, après tout, ceux qui pratiquent le sumo, les sumotori, si j'ai bien compris.
Oui, ils sont considérés comme des dieux. Disons que le plus haut grade, ou le plus haut rang, celui de Yokozuna, vous permet d'accéder à un statut, empreint de respect par, je pense, beaucoup, beaucoup de gens de la société japonaise. Même si vous n'êtes pas japonais à la base, mais la plupart des lutteurs vivent dans un dénuement, voire une pauvreté absolue. Donc ils ne deviennent dieux qu'à partir du moment où ils ont des résultats probants.
Comment devient-on Rikishi, David
Prudhomme ? On se lève de très bonne heure et on recommence tous les jours d'abord.
Mais est-ce qu'il faut avoir un corps prédisposé à cet art martial?
Il y a des rabatteurs qui repèrent des jeunes ados ou des gens de l'entourage de l'ado qui trouvent que sa corpulence pourrait lui permettre de devenir sumo. Et ensuite, ils intègrent une école pendant quelques temps et ils sont soumis à l'entraînement rigoureux, là, celui dont je parlais au début, qui dure 3-4 heures tous les matins à jeun. Puis ils mangent et sitôt le repas passé, boum, il faut faire la sieste parce que ça permet d'accumuler plus de graisse, enfin
de poids.
Et ensuite, il y a encore de l'entraînement. Il y a aussi des contraintes, c'est-à-dire d'ordre hiérarchique. Tous les jeunes, les apprentis doivent s'occuper des tâches ménagères des plus gradés et de la vie de l'AIA. Et ça passe avec les grades, avec le rang, avec l'accession à un statut un peu plus fort. Et là, on peut avoir donc les aides. Mais il y a toute une partie de la vie qui est consacrée avant d'atteindre un certain niveau, celui de Sekitori, Laurent de Sekitori, donc sculpteur professionnel.
Vos dessins dans ce beau livre, David Prudhomme, sont accompagnés d'un texte de Sonia Deschamps qu'on ne présente plus ici, puisqu'elle vient souvent en tant que spécialiste de la bande dessinée journaliste de Casemate, qui raconte donc l'histoire de cet art martial et comment il est pratiqué aujourd'hui. Mais vous profitez de ce sujet pour montrer tout ce que vous pouvez faire dans le dessin. La palette est très très large. Vous passez du dessin très très réaliste à des aquarelles qui laisse songeur et où on retrouve effectivement le mouvement, les formes des sumotori.
Ça a été un sujet propice à me livrer à cet exercice que j'aime bien, c'est-à-dire essayer d'aller d'une rive du dessin à l'autre, je dirais. C'est-à-dire le dessin, pour moi, ce sont des chemins et on les parcourt, c'est des danses, une danse de l'œil. Comme la danse, on se balade à gauche et à droite, en haut et en bas, et du coup, on peut avoir un dessin plus rude, tout d'un coup, un dessin réaliste, effectivement, un dessin qui tend vers l'abstrait. Pour moi, ça fait partie de ces chemins, avec un sujet aussi finalement simple, hein, des hommes, deux hommes, deux corps qui s'affrontent, et je peux arriver à créer, après avoir présenté un motif réaliste, à peu près la même forme, mais de manière abstraite, et on la décodera parce que elle est unifiée par le sujet et notamment les textes de Sonia qui permettent d'approfondir toutes les notions qu'on aurait envie d'apprendre sur le sumo.
Est-ce que cette expérience au Japon avec ces lutteurs a changé quelque chose dans votre manière de voir les gens, de reconsidérer ce qui est beau, ce qui est laid?
Elle a pas changé parce que je travaille ça depuis que je travaille le dessin en réalité. Quand l'épisode sumo, j'allais dire, a commencé, c'était en 2012, je sortais d'un livre sur le Louvre. Alors là, on est a priori dans le temple de la beauté, mais je m'étais intéressé aux visiteurs et aux attitudes pas forcément extrêmement élégantes qu'on peut avoir quand on est face à un tableau qui malgré tout est une splendeur. J'ai aussi travaillé sur des corps à la plage plus tard, mais donc on n'est pas toujours non plus dans une présentation qui vous met à votre avantage.
Le corps, c'est une obsession pour vous, David Prudhomme?
Le corps, c'est les lignes, c'est des lignes. Bon, moi, c'est mon obsession, je crois, c'est me balader de ligne en ligne. Je les observe et je peux pas juger une ligne par rapport à une autre finalement. Donc C'est une ligne de conduite, je dirais. C'est-à-dire c'est un luxe que le dessin offre, en fait. De pouvoir arriver à rendre même ce qui est moche, beau. Alors, ce qui est a priori moche. C'est ça, la notion fondamentale. C'est-à-dire que la pratique du dessin permet justement de ne pas juger. Puisqu'on doit on doit quand même s'intéresser au sujet qu'on regarde. Et par l'attention qu'on y prête, on est conduit à y trouver si ce n'est du charme, en tout cas à le rendre plastiquement intéressant. Et déjà le fait de le rendre plastiquement intéressant décale le regard de celui qui va regarder, déjà de celui qui pratique, mais aussi de celui qui va regarder, parce que c'est ce qui était intéressant aussi dans le sujet du sumo, c'est-à-dire de pouvoir arriver à faire considérer qu'un a priori plutôt négatif peut déboucher sur une image qui soit belle, enfin, et donc pourquoi pas aller voir derrière les a priori.
Et pourquoi un livre de dessin? Pourquoi vous retrouvez dans la position d'un artiste plasticien avec le sumo, David Prudhomme? Vous auriez pu faire comme d'habitude, c'est-à-dire écrire, imaginer une bande dessinée avec, en personnage, principaux ou pas, des sumos.
Puisque c'est un chemin, ce n'est peut-être que le début du chemin. Il est probable et que la suite soit à donner à cette histoire soit justement une bande dessinée.
En attendant, le livre est très très beau, vos dessins sont exceptionnels. Sumographie, c'est édité par Soleil dans la collection Noctambule, et vous restez avec nous, David Prudhomme.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
こんにちはいただきます。大きな声で。はい。はっきよい、はっきよい。大相撲。はっきよい、はっきよい。 つふらふらしっちゃかあこわるい即興して四個踏んでどっしりと下半身から全身に力を込めて、はい、はっけよいはっきよい大相撲はっきよいはっきよい大相撲三つ持っても大人こんな体ちゃんこ食ってよく寝てよく笑って全部一生懸命大きなれよ、はい、はっけよいはっけよい。
Voilà une chanson de Simon, David Prudhomme. C'était pour, bien sûr, marquer la sortie de ce très très beau livre, votre Sumo-graphie. Mais on peut trouver une bande dessinée de vous aussi, une nouvelle. Enfin, pas tant que ça, en fait. C'est un nouveau livre qui reprend une ancienne bande dessinée, des chroniques, une chronique villageoise avec de drôles de personnages. C'est édité par l'association Loisivray. Parce que là, vous utilisez d'autres techniques, c'est un autre dessin. Déjà, on vous retrouve dans un cadre qui nous est familier, celui de la bande dessinée.
Oui, il y a deux points communs à ces deux livres, c'est qu'ils sont carrés tous les deux, c'est mon année carrée.
Ouais.
Et
le Sumo, il est volumineux plutôt.
Oui, l'autre est léger. Le papier est très bouffant. Et les
léger
personnages...
Léger comme l'air qui siffle au-dessus de la tête de ces retraités campagnards.
Ben voilà, c'est-à-dire que le deuxième point peut-être commun, c'est de mettre l'accent sur des choses qu'on, a priori, on aurait pu forcément dénigrer.
C'est-à-dire quoi?
Bah, c'est-à-dire des petits bonhommes qui font pas grand-chose et qui passent leur temps au bistrot ou qui travaillent, qui sont oisifs, hein, puisque le titre c'est Loisivray.
Ouais.
L'histoire, en deux mots, elle a commencé il y a 18 ans, donc j'ai commencé cette histoire-là il y a 18 ans et le suspense principal c'est de savoir si oui ou non les copains de Roland, le personnage principal, vont arriver à tapisser sa cuisine qui est vraiment dégueulasse. Donc,
et par quoi ils vont la tapisser surtout?
Eh ben, comment faire? Donc voilà, on les suit au fil de la journée, essayer de retarder au maximum l'heure de début des travaux. C'est-à-dire que j'ai fait deux premières parties dans une micro-édition. Et plus de la moitié du livre là tout récemment, quoi.
Parce que c'est quand même une galerie de personnages. On est dans la chronique villageoise vue par les vieux, on peut le dire, par des gens qui ont le temps
de se regarder, de s'écouter,
de s'écouter
et de parler.
Enfin, ouais.
Et on est dans des paysages. Hein. Les visages, ce sont carrément des vrais paysages sur lesquels on peut se promener, quoi. Il y a beaucoup de surface, il y a beaucoup de blagues aussi. Hein. C'est quand même un livre pas toujours du meilleur tonneau. Mais
vous les aimez bien, c'est.
Mais je trouve qu'il faut les. Ouais, je trouve. Ah, disons que tout part d'un voisin en fait que j'ai connu enfant et qui m'a sidéré. Donc c'est l'homme au chapeau, c'est Roland, c'est le shérif.
Voilà, le shérif. Mais le shérif est un village français.
Donc un shérif qui n'a pas grand-chose à shérifer. J'allais le voir. Et il me fascinait parce qu'il arrivait par sa force d'inertie à fédérer autour de lui tout un tas de personnages incroyables. Mais lui était encore plus fort que tous les autres parce qu'il arrivait à leur régler leur compte. Quand même, c'est un shérif.
Un shérif sans cheval, mais avec une bicyclette.
Mais avec beaucoup d'esprit.
Et beaucoup d'esprit.
Ouais, il arrivait à avoir des réponses, des phrases cinglantes et il refaisait pas vraiment le monde du tout, mais il arrivait à pointer en chacun les petits défauts, les petites choses, et sans oublier, qui était charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est.
C'est une manière aussi à vous de rappeler que vous avez un contact avec la nature, avec ces gens-là, que vous venez de là aussi, David Prudhomme.
Bah oui, je viens complètement de ce terroir. Hein. Mmh. Alors c'est peut-être l'âge qui fait que ça revient maintenant, mais finalement dès 1992, j'ai eu l'idée que ce Roland était un personnage en fait. Donc de là à en faire un personnage de BD, ça a mis 18 ans, parce que je suis passé par toutes les phases. J'ai voulu en faire des polars, des machins, des trucs pas possibles, et toute idée qui me traversait. Puis j'ai finalement passé tout ce temps-là à désosser pour revenir au fait qu'il y ait pratiquement que des éléments vrais à l'intérieur. J'ai juste agencé différemment. Mais donc il y a énormément de choses qui m'ont nourri dans mon enfance et mon adolescence et qui viennent de là. qui viennent de lui, qui viennent de des choses qu'on a pu lire aussi dans La Mariée en plastique ou des travaux que j'ai pu faire avec Pascal Rabaté. Donc c'est un peu le même terroir effectivement. Il y a une famille commune là.
Mais vous avez opté pour la plume, pour un noir et blanc très dépouillé et le crayon.
J'ai travaillé beaucoup en hachure et de plus en plus en fait. Mais il y a des crayonnés, il y en a tout le temps parce qu'il faut quand même pas. Et puis je refais en permanence de toute façon. Donc mes pages elles-mêmes ont dû être faites chacune 4 ou 5 fois. Donc à la fin, finalement, l'ancrage devient un crayonné puisqu'il est l'étape qui a précédé l'ancrage final. Donc j'apprends par cœur les lignes. En fait, je m'entraîne comme ça, je dessine comme ça, j'apprends par cœur les lignes que j'ai à faire, je les travaille, je les retravaille, je module la narration aussi, j'essaie de changer tout ce que je peux, de tourner toutes les cases dans tous les sens, pour finalement arriver à une forme celle qui paraît à la fin. Mais j'apprends ces lignes pour pouvoir l'oublier et comme un danseur chercherait à connaître par cœur sa chorégraphie et puis pour pouvoir la refaire librement, ou un musicien connaît fait ses gammes. Donc c'est après j'essaie d'attraper je garde la bonne ligne, on va dire. Enfin, celle qui, au moment où je dois la garder, me satisfait suffisamment.
Alors, les personnages sont ressemblants. On imagine que ces personnages sont très ressemblants. Mais c'est pas non plus un trait réaliste.
Ah non, on n'est pas du tout dans le réalisme. Mais on n'est pas dans la caricature non plus. Il y a plein de personnages qui n'ont pas le physique qu'ils avaient, mais qui ont la mentalité que j'ai connue. Et puis moi, j'allais de temps en temps là-bas, mais j'étais pas avec eux tout le temps. Donc, j'imaginais aussi tout ce qu'ils pouvaient se dire. Et il y a quand même quelques éléments de ça, là, dans cette histoire.
Et pourquoi ce choix du noir et blanc, mis à part la couverture qui est en couleur?
Ah oui, la couverture est pop.
Ouais.
Pourquoi ce choix du noir et blanc? Bah parce que j'avais envie de laisser justement les lignes parler, quoi. Et il y a aussi le choix du carré qui n'est pas anodin. Ça permet un swing à la lecture, c'est-à-dire que comme on a une préscience immédiate de l'ensemble de ce qu'on va lire, on peut pas détacher notre regard en lisant une seule case des autres cases qui sont alentour et ça permet à l'œil de en permanence de revenir pratiquement là où il a commencé la lecture. Donc on fait une boucle un petit peu à la lecture et ça donne un petit mouvement avec lequel j'ai essayé de jouer. Donc moi j'ai bien aimé travailler cette forme-là.
Avant d'arriver à cette forme, même si on sait hein, puisque ce sont des dessins que vous avez publiés sur une période qui s'étale sur 18 ans, on essaye, vous faites beaucoup d'essais, vous essayez à chaque fois de faire un dessin différent du précédent, un livre qui se distinguerait des précédents. Comment vous travaillez, David Prud'homme, maintenant que tout le monde s'accorde à dire que vous êtes un des plus virtuoses dessinateurs de votre génération et oui, ça y est, vous rejoignez les Blutch, les Blancs, les Sfar, les Larsenet, ça y est.
Alors, je vous laisse toute la responsabilité de ce que vous me dites. Mais comment je travaille? Je travaille en travaillant, en refaisant, comme je vous l'ai dit.
Pour vous, c'est relever des défis à chaque fois? Je rappelle que vous êtes quand même l'auteur de ce beau livre que j'ai tellement aimé que je vous ai invité tout de suite pour venir en parler, c'est-à-dire un livre visuel qui nous donne la sensation d'écouter de la musique, et pas n'importe quelle musique, le Rebitico. Et là, vous aviez travaillé justement une ligne qui nous a permis effectivement de rentrer carrément dans la musique. Donc c'est toujours un défi et un livre, un défi, un livre.
Finalement, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être pour pas dormir. Mais avant toute chose, c'est le sujet qui domine, et c'est lui qui m'aiguille en fait. Je passe un temps assez considérable à envisager toutes les possibilités graphiques qui s'accorderaient au sujet, et à la fin, il y en a une qui gagne. Donc elle est jamais la même puisque le sujet est toujours différent. Ça, c'était un mystère, c'est-à-dire pourquoi je m'intéresse à des sujets différents, parce que, comme je vous disais au tout début, peut-être pourquoi pas, à chaque fois je m'autorise le fait que le hasard rentre dans ma vie et dans mes choix pour le suivre.
Et aujourd'hui, est-ce que ça va beaucoup mieux pour vous, David Prud'homme? C'est-à-dire, est-ce que vous vivez de votre métier de dessinateur, auteur de bande dessinée?
Oui.
Ça y est, enfin.
Ah bah, ça fait un moment.
Ah bon? Ah bah, bonne nouvelle.
Oui.
Et ben, en 10 ans.
Ben, Rebitico a tout changé. Rebitico a tout changé dans ma vie de dessinateur, oui.
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que j'ai eu plus de facilité avec les éditeurs, avec les collègues, avec le public.
Avec Sumo, on a vu que vous avez exposé vos dessins.
Oui, tout vient d'une exposition et de l'éphémère d'une exposition. Elle a duré 15 jours, comme le tournoi, à Bordeaux en 2013. Et là, elle était représentée en 2018 À la ferme du Buisson, j'en ai profité pour retravailler les dessins. Et elle vient d'être présentée 4 mois à Amiens et elle sera à Nantes en 2020, en mars.
Donc vous êtes dessinateur et auteur de bande dessinée.
Et metteur en scène.
Merci d'être passé ce matin, David Prudhomme.
Merci à vous.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Et les deux livres de David Prudhomme sont à retrouver dans les bonnes librairies. Sumographie, c'est édité par Soleil dans la collection Noctambule. Quel beau cadeau pour Noël. D'ailleurs, il coûte un peu cher, mais...
Mais il fait 1,9 kg.
Mais oui! Et puis, L'Oisivray, c'est édité par l'association. Passez une bonne journée sur France Culture. Passez aussi un bon week-end. On se retrouve lundi.